Vous écoutez
RMC. RMC, la une des grandes gueules du sport.
Oh, incroyable, il a pris la ligne et Tsitsipas n'est pas parvenu à remettre la balle dans le court. Et donc Novak Djokovic, comme un grand, comme un seigneur, remporte son 10e Open d'Australie, son 22e Grand Chelem.
Oh non, les deux en erreur. Ah non, pas sur une balle de 7.
Pas Novak Djokovic.
Mais non.
Je ne pense pas que ce soit de la malchance, c'est simplement l'âge, l'usure du corps. J'ai beau en prendre soin, la réalité me frappe en ce moment.
Deuxième balle dedans, retour moyen de Djokovic. Sinner, voilà, ça va dans le filet. Et Yannick Sinner décroche sa place en finale de Roland Garros.
C'est une nouvelle réalité pour moi. J'essaye de gagner un match ou deux. Je ne pense pas aller loin dans le tournoi. Et c'est un sentiment complètement différent de ce que j'ai ressenti pendant plus de 20 ans dans le tennis professionnel.
Et c'est terminé. Et Carlos Alcaraz sur cette volée légèrement extérieure. Se hisse pour la deuxième fois en finale de l'US Open. Et prend sa revanche de l'Open d'Australie face à Novak Djokovic.
I mean, this could have been the last match ever I played here.
Je sais pas si Novak Djokovic écoute Lara Fabian pour se motiver avant l'Open d'Australie. Il aura 39 ans en mai. Il a remporté 24 tournois du Grand Chelem. Le dernier à l'US Open en 2023. L'ultime majeur non remporté par Alcaraz ou Sinner. Son titre olympique à Paris en 2024 face à l'Espagnol est son dernier grand fait d'armes. Mais en Australie, où il était encore demi-finaliste l'an dernier, il s'est imposé à 10 reprises le record du tournoi. Oui, mais voilà. Voilà. Djokovic entretient le mystère. Personne ne l'a vraiment vu jouer depuis le premier Grand Chelem de la saison. Les GG, je vous pose la question ce matin à la une pour la grande reprise vraiment du tennis à l'Open d'Australie. Le 25e Grand Chelem pour Djokovic. Est-ce que c'est maintenant ou jamais? Christophe Cessieux.
Pour moi, ce sera malheureusement jamais.
Terrible. Cédric Mons.
Maintenant.
Pascal Dubras.
Maintenant.
Il a tenu une raquette de tennis, sa voix très légitime. Julien Beneteau.
S'il en a 25e, c'est en 2026, mais pas en Australie.
Oh là là. Vous avez vu toute cette science un petit peu pour nos
enfants. Voilà, est-ce qu'il va nous annoncer
Voilà. Mais je ne le vois pas gagner l'Open d'Australie.
Avec Bennett, c'est toujours pareil. On l'attend dans le zig et il nous envoie dans le zag. C'est toujours un peu comme ça. 32-7.
C'est pour fou.
WhatsApp 06-12-424-424. Eric, salut, notre voix du tennis sur RMC est à Melbourne, le chanceux pour l'Open d'Australie. Salut Eric.
Bonsoir à tous. Ah. Oui, Bermuda, bien sûr. Il faisait très chaud aujourd'hui. Il y a eu des malaises. Ramasseuse de balles qui a failli s'évanouir en plein travail, si je puis dire. Non, c'était chaud, mais c'était très agréable, comme je vous le cache pas.
T'es allé te baigner à Bondi? Fais attention, il y a des requins là-bas.
Bondi, c'est pas vraiment à Melbourne.
Il y a des plages à Melbourne, c'est loin.
Oui, mais c'est pas terrible, Saint-Kilda. Je vous conseille pas.
Bon, écoutez le podcast cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC, peut-être pour avoir tous les conseils tourisme en Australie sur toutes les plateformes de téléchargement. Bon, Eric, en Bermuda, c'est important de le rappeler. Est-ce qu'on sait comment il va et est-ce qu'il ambitionne de faire sur place?
Il y a une vraie part de mystère parce que Novak Djokovic n'a plus fréquenté le circuit depuis le tournoi d'Athènes, c'était en novembre dernier, et dans la foulée, souvenez-vous, il avait zappé le Masters pour s'occuper de son corps. Mais tout n'a pas été si fluide hein, puisqu'il a renoncé à jouer Adélaïde. Mais bon, il faut jamais enterrer un garçon comme Novak Djokovic.
J'ai toujours la motivation. Bien sûr, je vois bien que Sinner et Alcaraz évoluent à un niveau au-dessus des autres, c'est un fait. Mais ça ne veut pas dire que personne n'a eu sa chance. Je crois en mes chances sur tous les tournois et particulièrement ici.
Mais quand on regarde de près le tableau, il a deux Italiens dans sa moitié de tableau, Musetti et Sinner. Sinner, évidemment, ce serait en demi. Mais le Serbe s'est montré beaucoup plus intéressant en conférence de presse sur son état d'esprit à son âge avancé.
Vous savez, je vis toujours mon rêve, pour être honnête. Oui, bien sûr, les accomplissements sont là. C'est une des plus grandes motivations que l'on puisse avoir. Donc oui, on m'a beaucoup demandé quand allait être la date de fin pour moi. Mais vous savez, je ne veux pas encore en parler ni y penser parce que je suis là, je suis en compétition. Quand ce moment arrivera et que l'idée sera mûre dans ma tête, je vous en ferai part et nous pourrons alors en discuter tous ensemble de la tournée d'adieu. Mais pour l'instant, je suis toujours numéro 4 mondial. Je continue de concourir au plus haut niveau et je pense qu'il n'y a pas lieu d'attirer l'attention sur ce sujet.
Ah, évidemment, s'ils inclinent demain matin au premier tour face à l'Espagnol Pedro Martinez, je suis sûr que le sujet de la retraite risque de ressurgir.
Tu restes avec nous, Eric. Évidemment, on va parler aussi des Français. Ça a plutôt pas mal marché ce matin à l'Open d'Australie. Ça joue en ce moment même. Hein. On attend Alcaraz, notamment tout à l'heure sur le cours central. Le débat, donc, le 25e Grand Chelem pour Djokovic, est-ce maintenant ou jamais? Christophe, alors, si vous êtes le seul à avoir vraiment dit jamais, pourquoi?
Parce que je pense que Djoko a atteint ses limites. Ça fait quand même plus d'un an et demi qu'il n'a plus gagné de grand chelem. Eric l'a dit, il arrive diminué à Adélaïde. Il a renoncé à ce tournoi. Il a même renoncé à un entraînement il y a 48 heures, je crois. Il s'entraînait avec Medvedev, mais il a été victime de problèmes au cervical. Il a été obligé d'écourter son entraînement. Bref, il n'a aucune certitude quant à son jeu et quant à la possibilité de tenir les matchs en 5-7. Or, on le sait, c'est le premier grand chelem de l'année, et pour arriver en finale, il faut gagner 7 rencontres, dont au moins 3 ou 4 en 5-7. Et il le disait récemment, j'ai du mal aujourd'hui, dans les tournois en 5-7, à battre des jeunes garçons comme ça.
Quand tu commences à le dire...
Bah ouais, alors même s'il veut pas parler de retraite, je le comprends, il pour l'instant il s'éclate et tout. Pourquoi ça, il est encore numéro 4 mondial, mais je le vois...
C'est une petite pièce qui est passée inaperçue.
Je le vois pas. Bon, excuse-moi, mais j'ai
Il n'a pas son stylo, il n'a pas ses fiches.
J'ai pas mes feuilles, j'ai rien.
Ah, il a rien, il est au talent.
C'est là où il est le meilleur.
Donc, je le vois pas battre Musetti, Sinner. Vous imaginez, Sinner, ça fait 5 fois d'affilée que Sinner bat Djokovic. Or, ils sont dans la même partie de tableau. Et ça sera sans doute en 5-7. Et ben, moi, je le vois pas passer Sinner. Ce sera en demi-finale. Déjà, s'il arrive en demi-finale, ce sera un miracle. Et s'il bat Sinner, derrière, il faudra se fader Alcaraz. Donc, franchement, je n'y crois pas.
Moi, j'ai mis Djoko, oui, parce que je pense plus aux accidents des autres, parce que c'est le début de la saison, parce que je crois au réveil du vieux lion qui peut, sur un début de saison où il serait un peu mieux, mais s'il n'y a pas d'accident dans son plateau, ouais.
C'est quoi? Parce qu'il faut jamais vraiment enterrer ce genre de...
Ouais, moi
de...
j'y crois, puis j'aime ces belles histoires, je suis peut-être trop romantique, mais...
Aimerait tous qu'il gagne un cinquième grand chelem pour marquer encore un peu plus la légende, pour taper sur la tête des gamins, là, qui sont prétentieux et qui veulent lui prendre son trône. Mais malheureusement, Pascal, moi je serai plus jamais au niveau de Georges Quirineau, toi tu seras plus jamais au niveau des grands entraîneurs de France. Qu'est-ce que tu veux?
Je voudrais juste faire un parallèle. Resitue-toi, Christophe, t'es en Normandie chez toi, tu sors la table de ping-pong, ok, t'es le roi la saison dernière, tu l'as toujours été, tu nous l'as toujours dit, et voilà pas que tu démarres. Tu démarres la saison, t'es pas serein, tu connais pas, t'as pas ton jeu en place. Moi, je prends surtout ce qu'a dit Eric tout à l'heure. Quand il s'agit de Djoko, ne jamais l'enterrer, a-t-il dit, ou quelque chose de semblable. Moi, je pense que c'est la juste formule. C'est le début de saison, c'est en Australie, c'est là où il a gagné le plus de tournois du Grand Chelem. Et bon, tu peux me dire, il a des problèmes de cervical, il n'a pas joué à Adélaïde. Certes, il a 37 ans. Tu me parles de sa saison dernière. Malgré tout, il a quand même existé, même si, bon, il a fait 3 demi-finales et une finale, je crois, pour les tournois du Grand Chelem. C'est pas si mal que ça pour un vieux qui est complètement carbo, si je t'écoute, tu comprends. Donc je préfère garder la mesure avec ce genre de joueur là exceptionnel. Alors, on ne sait jamais ce qui peut se passer, et là où je rejoins Cédric, il faudra des concours de circonstances. Le premier des concours de circonstances, c'est que ces premiers tours se passent vite et qu'il ne bouffe pas trop d'énergie dans ces matchs-ci, et puis après on ne sait jamais, les cadors peuvent se prendre les pieds dans le tapis aussi. Est-ce ça pas, peut arriver,
oui, mais derrière Sinner, c'est lui. Quand on regarde.
Ah oui. L'année dernière, en 2025, le meilleur du reste, c'est Djokovic. Il a fait les 4 demi du Grand Chelem. Donc c'est quand même énorme.
Il vieillit encore un peu par rapport à l'année dernière. Son corps est encore un peu plus fatigué que l'année dernière. Ouais. Et vous pensez qu'il va faire comme il y a 2 ans ou il y a 3 ans?
Est-ce que,
à ton avis, il est au même niveau qu'il y a 3 ans ou 2 ans lorsqu'il a gagné?
Il y a 3 ans, non, mais il est au même niveau que l'US Open.
Est-ce que Alcaraz et Sinner ne sont pas supérieurs à ce qu'ils étaient il y a 2 ans?
Il y a 2 ans, oui. Par contre, sur la fin de l'année, Sinner, je pense qu'il est meilleur. Alcaraz, j'en sais rien. Alcaraz, il s'est passé quand même beaucoup de choses à l'intersaison qui sont pas anodines.
D'accord. Donc ça, la vraie finale de Djoko, ce serait de taper Sinner, après ce serait les doigts dans le nez
tu m'agresses, tu m'attaques alors que je te dis que je pense pas.
Je vous avais dit qu'il était de bonne humeur.
Je pense pas qu'il gagne l'Open d'Australie cette année. Moi, si je le vois, s'il a une fenêtre encore, ce serait éventuellement Wimbledon cette année. Parce que sur gazon, même si Sinner et Alcaraz sont devenus très très forts, il est quand même, il a une expérience qui est quand même incroyable, et que là sur le gazon, il peut y avoir des accidents plus que sur dur chez les autres, qui peuvent le permettre de se faufiler. Moi, je pense que les deux là, ils sont au-dessus. Mais il y a deux exemples et où avec ces mecs-là, il faut pas les enterrer. Jamais on aurait pensé que Nadal puisse gagner un dernier Roland Garros et il l'a fait dans des conditions un peu exceptionnelles à 34, 35 ans, 36 ans.
Un garçon qui a accumulé beaucoup plus de blessures par exemple que Djokovic
hein. Et Federer, quand il est revenu, il faisait 6 mois. Federer, il a regagné l'Open d'Australie en 2017, on s'y attendait pas du tout, il avait 36 ans, il avait pas joué depuis 6 mois et il est revenu et il gagne. En fait, ces mecs-là ont ils ont quelque chose de différent. Après, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je pense que le grandissime favori, c'est Sinner. Que Djokovic va essayer d'arriver jusqu'à Sinner en demi.
Mais tu penses qu'il y a une petite ouverture quand même.
Mais s'il passe pas trop de temps sur les cours.
Il a un début.
Alors, ce qui est important, d'ailleurs, Cédric et Bennett, c'est aussi les conditions en Australie.
Voilà.
Djokovic,
il a gagné 10 fois, il est chez lui. Donc, par exemple, il a un début de tournoi qui est parfait. Parce que lui, il est dans la partie de tableau où les premiers tours se jouent lundi ou mardi. Ça veut dire que le deuxième tour se joue jeudi. Lui, évidemment, il joue pas mardi. Il joue demain lundi. Donc il joue demain en plus en Accession.
Jeudi.
Exactement. D'accord. Donc ça veut dire que déjà, il joue à 20h30 ou 21h lundi, demain soir. Il joue pas en pleine journée à 30 degrés.
Pendant 48 heures, il se met à la clim.
Exactement. Dans le frigo. Il arrive au deuxième tour.
Il va
jouer tous ses matchs en soirée. Ça c'est sûr. Donc il sera moins usé physiquement que s'il devait jouer à 15h à 30 degrés. En plus, j'ai regardé sur toute la première semaine, il fait plutôt aux alentours. Il va pas faire 40 degrés, mais il fait plutôt entre 28 et 30 degrés. Donc il fait quand même chaud. C'est quand même important. Et il y a des vraies différences à Melbourne, c'est que tout d'un coup, tu peux jouer à 23 degrés ou à 18 degrés, comme deux jours après à 42 degrés. Et ça, sur les organismes, c'est terrible. C'est comparable un peu à ce qui peut se passer au Tour de France quand tout d'un coup il y a une canicule et que le lendemain Djokovic là-dessus il a une expérience et il a un physique.
Julien sous-entend qu'il va bénéficier d'un traitement de faveur comme Federer à sa grande époque. J'ai bien compris ce que tu voulais dire.
Ils l'ont tous.
C'est logique. Tu gagnes 10 fois. Viré comme un malpropre du pays il y a quelques années quand même.
Tu gagnes 10 fois le tournoi, c'est normal.
Non mais il est chouchouté sur place Djokovic ou pas? Tu l'as vu hier?
Quand tu gagnes 10 fois le tournoi, t'as quand même une certaine aura, un certain prestige. Je voudrais rajouter un truc parce que je viens de découvrir ça. Il a fait sa conf avec les Serbes hier et il a reconnu qu'il avait perdu en vitesse de déplacement et donc il a insisté sur du travail biomécanique avec un ultra spécialiste qui s'appelle Mark Kovac.
Un ultra spécialiste.
C'est un mec, c'est une pointure apparemment.
C'est un duo de la biomécanique. Tout ça.
Et il a bossé 8 jours avec lui à Athènes, donc il a conscience qu'il doit travailler ses forces. Il est conscient qu'il va moins vite qu'avant. Mais bon, c'est un cerveau, ce mec, tu vois. Donc, j'ai trouvé que son discours en conférence de presse était plus positif que à l'US Open, où on l'avait entendu, je crois, dans la prod, où là, l'US Open, il reconnaissait que Sinner, Alcaraz, il peut plus les atteindre. Là, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus positif. Et surtout, il est chez lui. Il va souvent au jardin botanique. Il a son arbre fétiche. Il se colle dessus. Et il prend toute l'énergie, tu vois. Non, c'est fabuleux ici. Il est chez lui.
Ce qui est bien avec Eric Salio, c'est qu'on a toujours tous les détails. C'est notre ultra journaliste. Il y a les ultra spécialistes. Lui, c'est notre ultra journaliste.
Un espion.
Allez, Novak Djokovic, est-ce maintenant ou jamais pour un 25e titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie? On continue d'en parler dans quelques instants avec vous. Venez au 32-16. J'ai beaucoup beaucoup de messages également sur WhatsApp au 06 12 424 424. Xavier qui me dit les grands champions ont un problème de timing pour leur fin de carrière, j'ai peur qu'il y ait les dernières saisons en trop. J'ai également Julien qui me dit qu'il ne voit pas Djokovic s'imposer à l'Open d'Australie mais plutôt à Wimbledon. Tiens, on va en parler tout à l'heure, Bennett, c'est ce que tu lui disais également. Et j'ai aussi d'ailleurs Alexandre qui me dit que ce soit un ballon ou autre chose, j'adorerais avoir une dédicace de Julien Beneteau.
À part Pascal, il y en a un qui le voit remporter l'Australienne.
L'Open d'Australie, pour l'instant, pas trop. Hein, franchement, non. On va pas se le cacher, mais même si il y a quand même cette cette idée, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, hein, de, il faut pas enterrer les légendes. On continue à parler avec vous. Bah, venez au 32-16 justement pour participer, pour être une grande gueule du sport avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, avec Pascal Duprat, avec Cédric Aymans, avec Julien Beneteau, avec Christophe Cessieux, on l'attend au studio,
il avec le fantôme de Christophe.
On a une pensée pour lui, hein. Il sera toujours avec nous.
C'est là où il est le meilleur, non, tu vois pas, regarde. La finesse de l'analyse, il est content, le sourire aux lèvres, il a son stylo, il va pas me l'envoyer dans la tête.
Il a pris un stylo rouge. La semaine dernière, il a envoyé un stylo dans la tête de Bennett pendant les jeux du sport.
Il est
jamais demi-mesure avec Christophe, un homme entier, c'est ça qu'on apprécie chez toi, Christophe, il faut le dire. L'Open d'Australie, on a avec Eric Salio également en direct de Melbourne, notre voix du tennis. Est-ce maintenant ou jamais pour le 25e Grand Chelem de Djokovic? Tiens, j'ai Pascal Doriol sur WhatsApp qui me dit, rappelez-vous de Federer 2017 à 35 ans, 17e mondial en revenant de blessure. Non, mais est-ce que c'est comparable, Bennett, franchement? Federer, quand il revient, il n'a pas deux jeunes qui écrasent le circuit, quoi.
Ouais, enfin, il y a Nadal et Djokovic qui sont monstrueux.
Pas mal.
Donc, non, la grosse différence, je trouve, c'est que on a. Mais ça peut jouer aussi en faveur de Djokovic, que, je veux dire, pour aller au moins jusqu'en quart ou demi. C'est-à-dire qu'effectivement, Alcaraz et Sinner, pour moi, ils sont plus forts que les autres. Mais après, entre la 4e et la 20e place, je trouve que le niveau s'est nivelé un peu. Je sais pas ce qu'en pense Eric, parce qu'il suit plus que moi le tennis. Mais je trouve que le niveau s'est un peu nivelé et que n'importe qui dans cette fourchette-là peut arriver en quart, là où il y avait avant quand même des mecs, c'était des mastodontes.
T'es d'accord avec ça, Eric? C'est vrai que c'est l'un des débats en plus qui a animé la planète tennis depuis quelques jours là, sur le niveau du tennis actuel par rapport à la génération précédente. C'est pas si facile aujourd'hui de se hisser très haut, même quand on est Novak Djokovic avec l'adversité.
Moi j'ai l'impression quand même que les deuxièmes semaines de Grand Chelem, notamment l'an passé, sont un peu ennuyeuses, à savoir qu'il n'y a pas de suspense, quoi. On a eu très peu de matchs en 5-7, que ce soit.
Les deuxièmes semaines?
Ouais.
Alors déjà que les premières semaines, elles sont ennuyeuses, parce que t'as les têtes de série qu'hier, les deux semaines deviennent ennuyeuses.
Ah, mais c'est bien parce que vous nous vendez l'événement. J'ai vraiment envie de suivre l'Open d'Australie.
On a vraiment envie de passer la nuit devant la télé.
Il y a un vrai problème avec les 32 têtes de série en Grand Chelem, Eric.
Ouais, bien sûr. Mais moi, j'ai surtout, je me suis surtout ennuyé sur les deuxièmes semaines où il n'y avait pas de suspense.
Ouais, c'est vrai, t'as plus de match, t'as pas de match.
Alcaraz, ils se sont trimballés, que ce soit à Wimbledon, à l'US Open, quoi. Donc, on guette les surprises. Là, il y en a eu une petite aujourd'hui, une petite Flavio Cobolli qui a été sorti. Bon, il avait un peu la diarrhée, comme on dit. Il a été battu par
un. Tu l'as dit, du coup.
C'est une belle histoire, par Arthur Ferry. Non, mais Arthur Ferry, je peux vous le vendre.
Alors,
il est né à Sèvres. Ses parents sont français. Il joue pour le TCBB. Et derrière, qu'est-ce qu'il a sur le tableau? C'est marqué GBR. Expliquez-moi. Bah parce que Loïc Ferry, il a ses bureaux à Londres, voilà. Donc le môme, il a été élevé à côté de Wimbledon.
Ce qui est terrible avec vous, c'est que si on vous cadre pas un petit peu, on parle de Djokovic, on finit par parler de problèmes gastriques d'un gars, puis finalement d'un Français qui en fait a un rapport avec le président de l'Orient.
Qui a tout craché, c'est
n'importe quoi.
Eric, dès qu'il met son bermuda et ses claquettes, il est inarrêtable.
Ah ouais, c'est plus la même chose.
C'est terminé.
Tiens, j'accueille Tim au 32-16, fan de tennis. Salut Tim, bienvenue dans la grande gueule du sport.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ah bah c'est nous qui sommes ravis de t'avoir ce matin. Djokovic pour un 25e titre du Grand Chelem, c'est maintenant ou jamais pour toi?
Alors pour moi, c'est jamais. Je complète tout ce que vous avez dit qui était hyper intéressant, mais il y a un truc où ce que j'expliquais, c'est qu'il a jamais été forcément ultra blessé, qu'il a tout réussi, il avait une aura incroyable, les adversaires perdaient avant même de rentrer sur le terrain. Et là, son, on va dire son pire ennemi, ça va être son corps. Il est en train de le lâcher. On le met dans les meilleures conditions pour que, bah, c'est normal, son palmarès parle pour lui. Donc, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Le problème, c'est que si on met toutes les conditions de son côté, que son corps le lâche et qu'il perd, psychologiquement, c'est pas Nadal, c'est pas Tiger Woods. Donc, pour moi, il est cuit. Et les jeunes ont confiance en eux de plus en plus et. Et voilà, maintenant, faut le terminer.
Tu vois, non, mais c'est intéressant. Pascal.
Tu vois, c'est pour cette raison que je persiste et signe. J'en appelle tous mes voeux, mais je pense qu'il peut gagner l'Open d'Australie. Parce que nous sommes en train de parler de Djokovic, qui est encore quatrième mondial, qui a fait quatre demi-finales, je le répète, des quatre grands chelems la saison précédente. Et on le traite comme si c'était je ne sais qui. Imaginons un seul instant qu'il y ait un Français, joueur de tennis, qui a 38 ans et qui soit encore quatrième, en ayant gagné 24 grands chelems.
C'est un truc
non,
qui
mais sans déconner. Sans déconner. Et on dit comme ça, allez, bon, il est cuit, son corps le lâche. Il prend une attention si particulière à son corps, son alimentation, que justement, ça lui permet de durer. Tu vois, voilà. Et moi, je dis que ses adversaires, les deux top joueurs monstrueux que sont Sinner et Alcaraz peuvent aussi se prendre les pieds dans le tapis. Voilà, c'est juste une vision positive du tennis et de l'issue, ce qui semble incontournable.
C'est la vision, oui, oui.
Mais non, mais c'est la vision, oui, oui. C'est la vision d'un garçon qui a fait un peu de sport, Christophe, et qui sait que le sport est incertain.
Pascal, tu crois qu'il est déjà en train de gagner son premier pari, c'est-à-dire qu'on parle pas de lui, on parle qu'il est fini, qu'il n'y arrivera pas, personne ne va le voir. Et qui va arriver peut-être, totalement caché en disant je vais aller me recueillir auprès de mon arbre.
Je pense qu'il écoute les grandes gueules, il est motivé. S'il écoute les grandes gueules ce matin, il va être motivé le mec. Hein. Je dis, hein. Il a envie de prendre la raquette, la casser sur la tête de Christophe.
Je pense que psychologiquement, il est en train de tout faire pour pas qu'on parle de lui et qu'il arrive. La programmation est bonne pour lui, il va pouvoir récupérer. Il a jusqu'au quart, on va dire, un tableau
qui est correct. Mais je ne vois pas aller. Moi, j'ai un très bon ami et qui est un grand joueur de golf, qui est supporter du PSG, donc très objectif, qui me dit il a autant de chances de gagner que l'OM, la Ligue des Champions.
Oh,
donc, tu vois,
on embrasse les charmeurs.
Ouais, c'est pas bien ce que tu fais. Il en a mis une en même temps. Mais non, je pense pas qu'il gagne l'Open d'Australie.
Est-ce qu'il fait encore peur? Alors, ça a été un peu évoqué par Timon. Merci d'avoir été avec nos 32-16. Est-ce qu'il fait encore peur aux adversaires? Parce qu'il y avait ça aussi dans la domination de Djoko, c'est que parfois, même avant de rentrer sur le terrain, il avait une telle aura, tu te disais non, mais il va falloir y aller en 5-7. Le mec, même si je lui prends 2-7, il va me manger la tête derrière. Est-ce qu'il fait encore peur?
C'est ce que je disais, je crois que c'était mercredi au Moscato Show, à part Alcaraz et Sinner, enfin Eric, tu me diras, tu me confirmeras ou pas, honnêtement, tu joues Djoko en grand chelem, t'es en meilleur des 5-7, à Melbourne,
tu trembles.
Non mais il faut savoir jouer au tennis pour le sortir. Ça c'est, tu sais que ça va être non mais tu sais que
ça va être l'Open d'Australie, c'est que tu sais jouer au tennis, mais je te laisse continuer.
Non mais c'est, il faut faire un énorme match pour aller le sortir devant 15 000 personnes en 5-7. C'est monstrueux. Il faut se lever de bonne heure. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. C'est un peu comme, je pensais pas qu'il pouvait gagner. Mais quand Nadal a fait son dernier Roland, qu'il était pas tête de série, qu'il s'est retrouvé à jouer Zverev au premier tour, qu'il a perdu. Ce jour-là, la manière dont a joué Nadal. Il n'y en avait pas beaucoup qui étaient capables de battre Nadal. Donc, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont capables de battre Djokovic. Et ça, c'est ce qui lui permet d'arriver au moins en quart ou en demi.
Djokovic, la nuit prochaine, va faire son entrée à l'Open d'Australie face à l'Espagnol Pedro Martinez sur la Rod Laver Arena, forcément. Eric Salio, tiens rapidement, juste avant de se quitter. Bon, de toute façon, tu vas être un fil rouge pour nous parce qu'il y a des matchs en ce moment à l'Open d'Australie. Qu'est-ce qu'on peut dire de nos Français rapidement depuis le début de la journée?
Il y a eu une superbe performance d'Elsa Jacquemot dans le tableau féminin, qui a battu Marta Kostiuk, l'Ukrainienne qui est tête de série 20. C'était un match absolument incroyable qui a duré 3h31, 3 tie-breaks. C'était jamais arrivé dans l'histoire de l'Open d'Australie qui est 3 tie-breaks. Et donc bravo à la Lyonnaise qui s'est vraiment arrachée pour sortir une tête de série. L'autre qualifié, c'est Corentin Moutet, qui a tremblé parce qu'il a eu un gros pépin physique au niveau de la jambe. Et heureusement, le mec d'en face n'était pas très bon, donc il s'en sort en 3-7.
Okay. En revanche, c'est fini pour sont pas très bons, Georges. Regarde Eric, il a tout râpé là. Comment il s'appelle? Comment on dit?
Schoolkate.
Schoolkate.
Schoolkate. T'as vraiment dit Schoolkate.
J'ai dit Schoolkate.
T'as faim toi, non?
Alors, Benjamin Bourzi sur le court, il est mené à 7-0 par Nori, mais il mène 3-0 dans le temps du deuxième. Et puis, ça, il y a Sarah Rakotomanga qui joue donc sur le central, sous les yeux de Roger Federer et de Rod Laver. Ça quand même, elle va s'en souvenir, la petite. Elle est menée 3-2 seulement par Zabalenka. Il y a match pour l'instant, c'est intéressant.
Contre la numéro 1 mondiale, sous les yeux de Rod Laver et Roger Federer.
Le dernier à avoir fait le grand chelem dans la même année.
Mais t'arrêtes de nous écraser avec ta culture en permanence.
Mais non, mais on parle de tu, Spinner.
Ça devient insolent. Les jeux, c'est tout à l'heure. On n'a même plus envie de parler, ça devient insolent. C'est insupportable. Merci, Eric Sagnot. Christophe Sommet a chanté. C'est un jukebox, le mec. Voilà. Vous avez mis une pièce dans le cessieux. C'est parti. Et les Mitchell, tout de suite. Allez. Ah non, bon, mais il n'y a pas de faire.
Dans le cessieux, c'est énorme.